Europe Midi, Romain Desarbres.
Midi et demi, pile, bonjour à tous, merci d'être avec nous, ravi de vous retrouver pour Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Ils vont devoir rendre des comptes, ils n'échapperont pas à la justice française. 14 islamistes sont dans le box des accusés au procès des attentats du 13 novembre 2015, parmi lesquels Salah Abdeslam, le seul terroriste encore en vie. Gladys Laffitte est sur place pour Europe 1. Et puis Alexandre Delval, géopolitologue, sera avec nous. On verra avec Alexandre Delval où en est-on de la menace terroriste en France. On va parler aussi de la primaire à droite. Celui qui doit l'organiser, Jean Leonetti, devait rencontrer ce matin Nicolas Sarkozy. Information Europe 1, rendez-vous annulé. Pourquoi ? Les informations, les coulisses avec Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. À chaque fois que je vous en parle, il y a toujours énormément de réactions. La pénurie d'emplois en France, de nombreux chefs d'entreprise ont du mal à recruter. On sera avec le maire de Cherbourg qui lance une campagne parce que le Cotentin propose 5000 offres d'emploi. Et puis, notez-le bien, prudence dans l'Aude. Dans les prochaines heures, il devrait beaucoup pleuvoir. On va y revenir. 9 mois pour rendre la justice, 9 mois pour condamner des islamistes qui ont choisi de participer à une entreprise monstrueuse. C'est un véritable marathon judiciaire qui commence en ce moment même, dans une salle construite spécialement. Le procès des islamistes responsables des attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts. Dans le box, Salah Abdeslam, le seul terroriste encore en vie. Les 13 autres dans le box sont des complices. Gladys Laffitte, sur place pour Europe 1. Tout d'abord, Gladys, l'audience, elle doit s'ouvrir en ce moment même, hein.
Ah oui, tous les acteurs de ce procès sont arrivés un petit à petit dans cette salle de 550 places, 750 mètres carrés. Il se peut d'ailleurs que l'ouverture prenne un peu de retard, hein, tellement il y a de monde. Alors pour vous décrire un peu le dispositif, il est totalement inédit, même pour nous, la presse. Nous sommes 141 médias accrédités et c'est un tirage au sort qui a déterminé notre présence dans la salle principale. Il y a 24 places et Marion Dubreuil s'y trouve actuellement pour Europe 1. Il y a énormément de monde, hein, je vous le disais, j'ai passé 4 contrôles d'identité et de sécurité, dont un qui ressemble un peu à celui qu'on passe dans les aéroports. Et c'est la même chose pour les avocats et les parties civiles. Écoutez, Philippe Soucy, il est avocat d'une quarantaine de victimes. Certaines ont décidé de venir, car pour elles aussi, bien sûr, c'est un moment historique.
Le premier jour, c'est une appréhension, parce qu'on ne sait pas comment les choses vont se dérouler, on ne sait pas quelle sera l'ambiance. Ce qui me préoccupe, c'est que vont en tirer les parties civiles. Il y a une immense soif de justice. Et vous avez une opposition qui va se faire aujourd'hui entre un procès en normes qui est un extraordinaire honneur de notre démocratie, et d'un autre côté, ce qu'on peut appeler en un mot la barbarie. Je crois que cette confrontation, c'est ça l'ouverture de ce procès.
Alors, pour les victimes, ça va forcément être un moment très dur. L'une des questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'il reste encore une once d'humanité chez ces islamistes ? Gladys, il y a 14 accusés dans le box, dont, je le disais, Salah Abdeslam.
Oui, il a bien été extrait de sa cellule ce matin. On ne sait pas s'il va vouloir s'exprimer, c'est un peu la grande inconnue. Il n'a quasiment rien dit durant les 5 ans d'enquête, seulement au tout début, juste après son interpellation. Il a reconnu avoir loué des voitures et des appartements dans le cadre de la préparation des attentats. Il a aussi indiqué qu'il devait se faire exploser devant le Stade de France, mais qu'il avait renoncé. Version contredite par ce qu'il a écrit dans un testament à destination de ses proches. Il évoque un problème technique de sa ceinture d'explosifs, ce qui a été confirmé par les expertises.
Alors voilà pour Salah Abdeslam. Qui sont les autres accusés ?
Il y a 20 personnes, dont 14 qui seront présents. 11 sont détenus au total et 6 seront jugés en leur absence. La Cour devra déterminer quel a été leur degré d'implication dans la préparation de ces attentats, et notamment au niveau logistique. Certains sont aussi soupçonnés d'avoir été de possibles membres des commandos. Alors pour les avocats de la Défense, l'enjeu est évidemment inédit également. Écoutez Christian Saint-Palais, il est l'avocat de l'un des accusés.
Ce procès a un objet, de juger les 20 hommes que l'accusation pense responsable des attentats à des degrés divers de culpabilité. Voilà, c'est ce que la Cour doit faire. Et nous ne devons pas nous perdre dans beaucoup d'autres considérations, sauf celles qui éclairent les faits et la personnalité des accusés. Nous devons y veiller pour montrer que nous tenons bon et que nous ne sommes pas submergés par l'émotion.
12 des 20 accusés risquent la réclusion criminelle à perpétuité. Voilà, je vous le rappelle, ce procès doit durer 9 mois. Il va s'ouvrir d'ici quelques minutes. Durant 2 jours, la cour procédera à l'appel des témoins avant le rappel des faits qui sera vendredi.
Gladys Laffitte au palais de justice sur l'île de la Cité, à l'ancien tribunal de Paris où a été construite une salle spéciale avec Marion Dubreuil également. Ceux à qui on pense évidemment, ce sont les victimes, ceux qui ne sont plus là et ceux qui sont encore en vie. Je vous propose d'écouter un témoignage, le témoignage de Thierry. Il était au Bataclan le soir du 13 novembre 2015.
J'ai du mal à accepter d'être une victime. Donc je vais pouvoir redéposer, signer que je suis partie civile, victime. Les victimes vont pouvoir témoigner. Moi, je témoigne le 18 octobre. Chaque victime a une histoire. J'étais au premier étage parce que toute la semaine, j'avais fait des concerts, j'étais fatigué. Et dès que ça a commencé à tirer, j'ai plongé sans attendre quoi que ce soit. J'ai plongé et j'ai rampé. Si j'étais parti du côté droit, je serais mort, parce que c'est les escaliers et les terroristes sont montés tout de suite, très vite, au premier étage. Moi, j'ai rien demandé, j'étais otage pendant 3 heures. C'est important d'être connu, d'écouter d'autres témoignages, parce qu'il y a des gens qui vont témoigner, qui ont vécu des choses, je dirais, pires, d'autres qui ont été blessés. Et c'est important, j'attends rien, évidemment, comme beaucoup, hein. Qu'est-ce qu'il va dire ? Abdeslam, il va dire pardon ? Vous croyez que les gens vont dire pardon ? S'il parle, tant mieux, mais il va dire quoi ? Ils vont être condamnés, 20 ans, 25, perpète, on n'en sait rien. Ça, c'est la justice qui décidera.
Voilà Thierry qui n'attend rien de Salah Abdeslam. Alexandre Delval, géopolitologue, bonjour. Merci.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous dans Europe Midi. Je voulais vous avoir parce que vous êtes un géopolitologue et un spécialiste de ces questions. La France a été frappée de façon massive en 2015. Comment, Alexandre Delval, a évolué la menace islamiste depuis 2015 ?
Alors, en 2015, on avait un nouveau terrorisme qui n'était pas celui de 2012 ou de Mohamed Merah ou même encore avant. C'était un terrorisme très projeté, c'est-à-dire commandité, organisé par une structure très connue et très puissante à l'époque en pleine ascension depuis la Syrie avec des commandos entraînés, des véritables guerriers. 2016-2017, c'est la descente de Daesh, on évolue vers un terrorisme téléguidé, c'est-à-dire c'est plus des commandos qui viennent de Syrie, ils sont conseillés, disons, de l'extérieur. Et depuis 2018 et ces dernières années, et les 4 derniers attentats l'ont montré, c'est de plus en plus un terrorisme extrêmement difficile à repérer, il n'y a pas de trace, c'est un terrorisme presque spontané, dit d'inspiration, et que moi j'appelle le terrorisme sociologique. Je m'explique. C'est extrêmement grave et c'est très difficile à repérer parce que de nombreux terroristes n'agissent plus pour venger des gens tués par les bombes occidentales en Irak ou en Syrie ou en Libye ou au Sahel ou en Afghanistan. Mais ils agissent parce que la charia, enseignée dans de nombreuses mosquées tenues par les frères musulmans, les salafistes, leur dit que normalement, un blasphémateur doit être assassiné. C'est le syndrome Charlie Hebdo. Et ça, c'est les 4 derniers attentats terroristes ont été commis. Et c'est pour ça que c'est à la fois endogène et exogène, par des gens qui étaient fanatisés en France, par les réseaux sociaux, les mosquées, les frères musulmans, qui leur ont appris que c'est normal de punir un blasphémateur et que c'est pas uniquement les terroristes qui le disent, puisque c'est la doctrine de la charia enseignée dans de nombreuses mosquées. Donc vous voyez le lien entre l'islamisme officiel intronisé qui a pignon sur rue, hein, l'exemple type, c'est le Tchétchène qui a tué Samuel Paty, il a suivi une campagne qui l'a précédée, initié par les frères musulmans, des associations islamiques légales, loi 1901, ou même la mosquée de Pantin, on connaît toute l'histoire, ou le conseil des imams d'un islamiste marocain extrêmement radical, qui ont créé un climat de parano, de chasse à l'islamophobe. Et ce terrorisme-là, il est en pleine ascension parce qu'il est lié à une vague de fond de l'islamisation mondiale. Cette idée que dans tous les pays musulmans, on doit chasser les laïcs, les militants des droits de l'homme, les féministes et surtout les blasphémateurs. Et il y en a plein des blasphémateurs en France puisque c'est le pays de Voltaire et des Lumières.
Merci beaucoup Alexandre Delval. C'est extrêmement clair. On a vu avec vous comment ça évolue depuis 2015 et jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup Alexandre Delval d'avoir été avec nous dans Europe Midi. Il est 12h39, restez bien sur Europe 1. Dans un instant, on part à Marseille. Encore deux fusillades hier soir. Et puis on parlera d'une campagne pour attirer de la main-d'œuvre dans le Cotentin. A tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est 12h42, merci d'être avec nous dans Europe Midi, on va partir à Marseille. Ne pas s'habituer, ne surtout pas trouver ça normal. Quatre jours après la visite du président de la République à Marseille, il y a encore eu des fusillades. Deux fusillades hier soir et cette nuit, faisant deux morts. Stéphane Burgat en direct de Marseille, bonjour Stéphane.
Bonjour Romain.
Racontez-nous ce qui s'est passé.
Eh bien écoutez, les coups de feu retentissent une première fois dans une petite rue du centre-ville près de la gare Saint-Charles peu avant 23h. Trois assaillants cagoulés font feu sur deux hommes, faisant un mort, un jeune sans domicile fixe de 25 ans et un blessé. Tous les deux seraient inconnus des services de police et l'enquête semble s'orienter vers des rivalités entre revendeurs de cigarettes à la sauvette. Seconde fusillade, cette fois-ci dans les quartiers nord, 2h du matin, deux hommes sont dans leur voiture stationnée à l'entrée de la cité, la Renaude, quand surgit un véhicule avec un tireur faisant feu à une trentaine de reprises. Un homme de 25 ans va succomber à ses blessures. Voilà en raison des lieux, en raison des profils des victimes, les deux affaires seraient bien distinctes. Seule la fusillade de la cité de la Renaude pourrait être liée aux stupéfiants puisqu'il s'agit d'un point de vente bien connu des forces de l'ordre.
Stéphane Burgat en direct de Marseille. Merci beaucoup Stéphane. C'est dans ce contexte, hein, alors que la sécurité est un sujet capital évidemment, que la droite cherche le moyen de sélectionner son candidat pour la présidentielle. Jean Leonetti, le monsieur primaire des Républicains, devait être reçu par Nicolas Sarkozy. André Chauveau, bonjour, du service politique d'Europe 1. Bonjour Alexandre. Vous avez des informations, le rendez-vous vient d'être annulé.
Oui exactement, c'est une information Europe 1. La rencontre entre Jean Leonetti et Nicolas Sarkozy a été annulé. L'ancien chef de l'État ne veut surtout pas être instrumentalisé. Ensuite, il faut savoir que Nicolas Sarkozy n'a jamais été réellement favorable à l'organisation d'une primaire. On rappelle que ce n'est pas forcément un bon souvenir pour lui. Il avait fini troisième en 2016. Et surtout, pour lui, l'élection présidentielle, c'est avant tout la rencontre entre un homme et le peuple. Mais face à l'absence de leader naturel à droite, et sans évoquer le mot primaire, son entourage nous indique que oui, il est favorable à une règle de départage entre tous les candidats. Ce qui est sûr, c'est que l'ancien chef de l'État s'intéresse évidemment à celui qui représentera les Républicains pour cette campagne. Il multiplie d'ailleurs les rencontres. Valérie Pécresse la semaine dernière, Xavier Bertrand le 20 septembre. Même si ses proches nous assurent que Nicolas Sarkozy ne prendra pas parti dans le processus de sélection. En tout cas, s'il venait à plaider de manière officielle pour l'organisation d'une primaire, ce pourrait être un caillou dans la chaussure de Xavier Bertrand, lui qui poursuit toujours sa course en solitaire à l'écart des autres candidats.
Xavier Bertrand qui poursuit sa course en solitaire, vous nous dites, Alexandre Chauveau, jusqu'à quand hein? On va voir. Merci beaucoup Alexandre pour toutes ces informations. Je voulais absolument qu'on parle de cette initiative dans le Cotentin. On manque de bras et de cerveaux dans le Cotentin. Il y a 5000 postes à pourvoir. Bonjour Benoît Arrivé. Vous êtes maire de Cherbourg, vous êtes vice-président en charge de l'économie et de l'emploi de la communauté d'agglomération. Vous avez lancé une campagne pour attirer des talents, attirer de la main-d'œuvre, hein, en clair. Vous cherchez 5000 personnes. Déjà, des postes dans quel domaine ?
Oui, alors tout à fait, vous avez complètement raison. C'est l'enjeu de cette campagne. Nous cherchons 5000 personnes et nous les invitons à venir travailler, à vivre dans le Cotentin. Nous avons un taux de chômage qui est passé de 12 points à 6% en quelques mois, en quelques années. Et donc, effectivement, nous recherchons des postes sur tous les domaines d'activité, de l'ingénieur, du soudeur, au fraiseur, en passant par le vendeur en boutique, le restaurateur, le couvreur, le plombier. Nous avons vraiment de besoins extrêmement importants sur tous les domaines d'activité, puisque nous avons la chance de vivre de nouveau un développement économique extrêmement fort.
Alors, je le disais dans les titres, à chaque fois que je parle de postes à pourvoir, d'emplois non pourvus, il y a énormément de réactions, énormément de chefs de petites entreprises qui me disent, souvent par les réseaux sociaux, ou en vrai d'ailleurs, dans la vraie vie, c'est fou, j'arrive pas à recruter, c'est un vrai souci. Et ce qui se dit également, c'est qu'on a du mal à comprendre, il y a beaucoup de chômeurs, il y a encore plusieurs millions de chômeurs, et les entrepreneurs ont du mal à trouver de la main-d'œuvre. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Il n'y a pas de demandeurs d'emploi dans le Cotentin ?
Alors, je vous l'ai dit à l'instant, sur le Cotentin et sur Cherbourg-en-Cotentin, le taux de chômage est passé de quasiment 12% à 6% en quelques mois, en quelques années. Et c'est l'intérêt de cette campagne aussi, qui est une campagne nationale, c'est de faire venir dans notre belle ville de Cherbourg en Cotentin. Et dans le Cotentin, des hommes, des femmes qui vont venir travailler, s'installer et plutôt, je crois, vivre de façon agréable.
Qu'est-ce que vous dites à ceux alors qui hésitent à quitter leur région? Vous dites la vie est belle à Cherbourg.
Ben, je leur dis que la vie est agréable, qu'il y a du travail en CDI avec des salaires extrêmement intéressants et qu'on peut à la fois s'épanouir professionnellement et puis construire sa vie de famille, acheter une maison et profiter d'un cadre de vie, je crois, et de paysages extrêmement, extrêmement agréables. Donc venez à Cherbourg en Cotentin, venez dans le Cotentin. 5000 postes sont à pourvoir sur l'ensemble des secteurs d'activité.
Vous mettez un dispositif spécial en place pour accueillir les nouveaux venus? J'allais dire des packages avec un travail pour le conjoint, des facilités pour l'immobilier.
Tout à fait. Donc, il y a une cellule d'accompagnement pour toutes celles et ceux qui vont venir. Inscription des enfants à l'école, à la crèche, présentation des activités sportives et du tissu associatif. C'est essentiel en termes de vivre ensemble. Et puis, aide active, au travail et à la recherche d'emploi pour le conjoint ou la conjointe, bien évidemment. C'est une formule globale et une prise en charge quasiment au cas par cas. Et on a aussi une qualité d'accueil sur notre ville et notre territoire historique. Donc j'invite toutes celles et ceux qui veulent changer de vie, qui cherchent du travail, à s'intéresser à ces 5000 postes à pourvoir dans le Cotentin.
Merci beaucoup Benoît Arrivé, maire de Cherbourg, vice-président en charge de l'économie et de l'emploi de la communauté d'agglomération, d'avoir été en direct dans Europe Midi. Merci à vous. Dans un instant, une petite révolution en PACA, des trains privés vont rouler. Tiens, qu'est-ce que ça va changer pour les clients? On en parle dans un instant, on va parler football également, les Bleus nous ont rassurés un petit peu hier soir. Et puis on va parler météo également, attention, hein. Plus d'une trentaine de départements en vigilance orange, on attend énormément de pluie dans l'Aude en fin de journée et dans la nuit. On en parle également dans un instant d'Europe Midi. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h51, ça sera une première en France et ça se passe en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Des trains privés vont rouler entre Marseille et Nice à partir de 2024. On a le temps de se préparer. C'est Transdev qui a gagné le marché face notamment à la SNCF. Il y aura un vote au Conseil régional à la fin octobre. Aurélien Fleureau est avec nous du service économie d'Europe 1. Aurélien, qu'est-ce que ça va changer? Et j'ai envie de dire, c'est le plus important. Qu'est-ce que ça va changer pour les clients?
Alors, très concrètement, cela va changer quelques habitudes pour les usagers. Il faudra par exemple acheter son billet de train ou son abonnement auprès de Transdev. Côté tarif d'ailleurs, pas de révolution à attendre, le prix sera équivalent, a fait savoir la région, qui se réjouit en revanche de voir le trafic doubler de 7 allers-retours quotidiens actuellement à 14 à partir de 2025, date du début du contrat de concession remporté par Transdev pour une durée de 10 ans. Et c'est sans aucun doute cette offre enrichie qui a fait la différence. Cette ligne Marseille-Toulon-Nice représente 10% de l'offre TER en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce sera donc une petite révolution d'avoir un réseau ferroviaire en France exploité par une autre entreprise que la SNCF. La compagnie historique gardera tout de même 90% des trains régionaux puisqu'elle a remporté un autre appel d'offres, celui des lignes Azur. Transdev devra donc assurer la maintenance des trains, la vente des billets et puis accueillir les 166 cheminots de la SNCF concernés. Des négociations sont à finaliser pour définir le contour précis de ce transfert.
Aurélien Fleureau, merci beaucoup. Aurélien, Jean-François Pérez, on passe des trains privés en PACA au football. Le foot...
au train qui arrive à l'heure.
Pardon ?
Au train qui arrive à l'heure.
Voilà, hier soir, la soirée a été bonne. Hein. Les Bleus nous ont entendus. Ils ont gagné hier soir face à la Finlande, 2-0. On commençait à trouver le temps long, à attendre un petit peu la victoire. C'est Griezmann qui a été le héros de la soirée.
Hein. Oui, incontestablement. Une soirée formidable qui a presque fait oublier les derniers mois difficiles qu'il vient de traverser. L'Euro en demi-teinte, donc avec l'élimination prématurée contre la Suisse. La polémique sur une vidéo où on le voit rire d'insultes racistes contre des Japonais. Il avait d'ailleurs perdu l'un de ses sponsors en Asie malgré ses excuses publiques. Puis le départ du FC Barcelone, également vécu comme un échec sportif. Mais il faut croire que les Bleus sont la meilleure thérapie d'Antoine Griezmann. Hier soir, on a retrouvé le joueur généreux, virevoltant dans la Coupe du Monde 2018. Les 60 000 supporters présents hier soir à Lyon ne s'y sont pas trompés. Ils l'ont ovationné à sa sortie du terrain avant de lui rendre hommage au micro de Cyril de la Morinerie.
Griezmann, meilleur joueur de la France actuellement, je trouve. Il est incroyable, il est partout, pour l'attaque, pour la défense.
Son doublé est dingue, quelle agilité devant le but. Rien à dire, bravo Griezmann, il fait taire les critiques pour le coup, des deux derniers matchs. Pour moi c'est un joueur qui est indiscutable en équipe de France, et là bah, ça l'est encore plus. Bienvenue dans la légende Griezmann, bravo.
Oui, légende, parce qu'en marquant ses 40e et 41e buts en équipe de France, eh bien, Griezmann égale Michel Platini, quand même pas rien, hein, et il devient le troisième buteur de l'histoire des Bleus, derrière Thierry Henry et Olivier Giroud, le tout à quelques encablures de chez lui, puisqu'il est né à Mâcon, c'était pas évidemment très loin de Lyon hier soir.
D'ailleurs, circule sur les réseaux sociaux, et c'est assez drôle, des photos de Griezmann avec... Enfin, des photos de Platini avec le visage de Griezmann.
Marion Lay,
ouais. Exactement. Le bilan, on va pas s'emballer, hein, Jean-François.
Non.
Le bilan de cette semaine internationale est quand même mitigé. Hein.
Oui, malgré la belle victoire d'hier soir, on va quand même le rappeler, face à la 54e nation mondiale. Hein. Donc voilà, il faut quand même un petit peu relativiser. Bilan mitigé, certes, l'équipe de France est première de son groupe et elle devrait se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar, mais elle a été accrochée deux fois cette semaine face à la Bosnie et en Ukraine, en étalant à chaque fois des faiblesses préoccupantes. Alors Didier Deschamps espère récupérer tous ses blessés, Mbappé, Kanté et les autres, pour les prochains matchs. En octobre, ce sera la phase finale de la Ligue des Nations et l'adversité sera tout autre, avec la Belgique et l'Italie ou l'Espagne. Donc vous voyez, le programme sera copieux.
Merci beaucoup Jean-François. 12h55, le temps, notez bien, 32 départements sont en vigilance orange aux orages. Il va y avoir beaucoup d'eau en fin de journée et dans la nuit dans l'Aude. Anissa Haddadi, il va donc falloir être très prudent dans les prochaines heures.
Hein. Oui, grande prudence, hein, puisque cet après-midi, les orages qui sont arrivés depuis ce matin sur la façade atlantique vont se développer sur toute la moitié ouest du pays, avec de nombreux départements en vigilance orange. Vous le disiez, Romain, hein, attention, vigilance orange aux orages sur un axe allant des Pyrénées à l'Île-de-France en passant par l'Auvergne. En Occitanie, les orages pourront donc être forts, hein, sur tout le sud-ouest avec des rafales de vent jusqu'à 80 km/h. On aura aussi de la grêle, on aura un cumul important d'eau puisqu'on attend jusqu'à un mois de précipitations en l'espace de quelques heures. En région parisienne, dans le centre et en Auvergne, les orages arriveront en fin de journée, début de soirée, aux alentours de 20h. Prudence également dans ces régions. Et puis prudence dans l'Aude, le seul département placé en vigilance orange aux inondations. À l'est du pays, du Grand Est jusqu'à la Provence, là le temps reste ensoleillé, hein, surtout sur le Lyonnais, il va faire très beau, il va faire très chaud. 33 degrés à Auxerre, 32 à Troyes, 31 degrés pour Paris, 30 à Lyon et Grenoble, 29 pour Colmar et Manosque, 28 degrés à Saint-Étienne et Lille. Il fait plus frais à l'ouest, forcément, avec les orages. 21 degrés à Cherbourg, 22 à Saint-Malo et 24 pour La Rochelle.
Voilà, le temps qui va vraiment beaucoup bouger dans les prochaines heures. Je le répète, hein, soyez prudents. Si vous vous trouvez dans l'Aude, il devrait y avoir de nouvelles informations et des consignes, hein, de prudence dans les prochaines heures qui devraient être émises. 12h57. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On se retrouve demain, évidemment. Dans un instant, c'est La France bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Très bel après-midi sur Europe 1.